RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, me revoilà. Eh bien oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a passé pendant deux semaines même, des repasses. Ouais, figurez-vous que j'avais une bronchite, mais énorme, j'aurais même pas pu parler à l'antenne. Je toussais, je glaviotais, je hucotais, je hoquetais. Non, je n'ai pas fait du hockey sur glace, hein, non pas, non, non. Et alors, le pire, j'avais des glaires. À l'antenne, ça aurait fait bizarre, quand même. Hein. Et j'ai même jusqu'à eu des débuts d'évanouissement quand je toussais trop fort. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que j'aurais été foutre à RLP avec tout ça dans la gueule ? Dans la bouche ! Et... Bon, mais ça y est, me revoilà, je suis presque neuf. Bon, vous avez vu, la voix, elle est encore un peu grillarde, mais c'est normal. Hein. Bon, ça part pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Surtout qu'au départ, je me suis pas soigné. Parce que j'ai l'habitude de faire de l'automédication. Mais là, ben, j'étais obligé d'aller voir le toubib. Excusez-moi, oui. Il y a encore des petits restes. Mais je ne vais pas vous emmerder trop avec ça, quand même. Vous n'en faites pas. Alors, pour mon retour à la vie de la radio, je vais vous lire une exclusivité de 1982. Vous vous rendez compte ? Et le monsieur qui a écrit ce poème, je ne le connaissais pas encore. Et pourtant, c'est Jeannot Boussuge. Parce que moi, je suis arrivé en 85 à Périgueux. J'arrivais tout frais des Antilles françaises, de la Guadeloupe, vous voyez, hein. Et après, j'ai fait sa connaissance, ouais. Et alors, il a un poème, donc, dans ce... Alors, c'est son premier fascicule, hein, donc, dans 82. Hein. Bon, il en a fait 36 ou 30, 32, je ne me souviens plus vraiment, hein. Et chaque fascicule avait au moins 60 pages. Et le comble, c'est qu'il a fait 4850 poèmes dans sa vie. Vous vous rendez compte ? Alors que moi, je suis à 1750. Hein ? Je suis un petit à côté de lui, alors que je faisais 50 centimètres de plus que lui. Ah, Hugo, figurez-vous qu'il appelait ça. Et d'après vous, c'est quel Hugo ? Hugo Pratt ? Hugo le Marseillais ? Hugo de Sainte-Hélène, Hugo de Jersey. Eh bien oui, c'est Hugo de Jersey, c'est-à-dire Victor Hugo. Contrairement à Victor Hugo, j'espère que sous mes mots, quelqu'un mettra de la musique pour qu'il soit plus féerique. Ben oui, parce que c'est vrai, personne n'a mis le poème de Victor Hugo en musique, hein, ou en chanson. C'est dommage d'ailleurs. Par contre, je refuse absolument que mes films de court et long métrage, quel que soit le visionnement, soient découpés pour remplir une page, qu'elle soit de publicité ou même télévisée. Voilà, il ne voulait pas qu'on utilise les films qu'on aurait fait sur lui. Personne n'a jamais fait de film sur lui, mais il était prévenant. Il s'est dit non, ça ne servira pas à la pub, hein, et surtout même télévisée. Hein. Ben oui. Victor Hugo, en son temps, se méfiait de la musique sur son œuvre écrite, comme nous, maintenant, avons pour des coupures des médias qui nous trahissent plus que ça. Voilà. Je ne crois pas qu'une publicité ait utilisé un texte de Victor Hugo. Hein. À mon avis, si vous avez oui dire que c'est arrivé, vous me téléphonez pour me le dire. Hein. Bon. D'un texte, un écrit, un poème, tu peux extraire ce que tu aimes. Mais d'un film, quel qu'il soit, il faut que tu présentes l'ensemble. Sinon, tu trahis l'œuvre en soi, qui après a plus rien de ne ressemble. Ouais, c'est un peu vrai. Mais c'est pareil, si vous faites qu'une seule phrase d'un poème qui en fait 25 phrases, ça ne veut rien dire non plus. Hein. Ou alors, il faut choisir la bonne phrase. Et dans ces cas-là, on appelle ça un haïku. Vous voyez les trucs japonais, là ? Vous voyez ? Juste, allez, 4 lignes, pas plus de 4 lignes. Hein. Alors, mettez de la musique sur mes mots. Si ce que j'écris vous inspire, bien sûr, ça n'en sera jamais pire qu'avec Victor Hugo. Mais laissez mes images vous dire, dans l'ensemble, ce que j'y mets. C'est ma vie, mon cœur en entier. Bon, c'est vrai, il avait un cœur gros, plus gros que la normale. Hein. Bon, c'est pour ça. D'ailleurs, on aurait cru qu'il avait un soutien-gorge, tellement il était gros son cœur. Hein. Enfin, un soutien-gorge avec un seul sein, bien sûr. Hein, parce que Je crois que c'était le sein de gauche qui dépassait, ouais, voilà. Je blague. Mais arrêtez, bon, arrêtez de m'engueuler, je blague. Bon, allez. C'est bien parce que en un seul poème, on parle de Victor Hugo, on parle de Jean Boussuge et on parle de moi. C'est génial, hein. On fera qu'on recommence ce cinéma-là. Hein. Alors, tiens, dernier journal des hydropathes, d'ailleurs, que je vais offrir à la fin de l'émission à mon technicien préféré. Hein. Ben oui. Et c'est normal, c'est le seul. Alors, c'est pour ça que je suis obligé de le préférer. Parce que je n'ai pas d'équivalence. Hein. Il n'y en a pas un autre pour dire, tiens, c'est lui le meilleur ou c'est lui le meilleur. Hein. Alors, tiens. Oh non, il est un peu trop salé, celui-ci. Et puis comme il y a déjà des gamins en vacances, on ne va pas le faire. Hein. Tiens, Victor Hugo, tiens, il est revenu. Il est revenu, celui-là. Ça s'appelle la sieste. Alors, vous savez que je dis toujours la sieste, ça devrait être une des huit merveilles du monde. Ça devrait être reconnu par la planète comme un monument exceptionnel, la sieste. Vous vous rendez compte, hein? Il y a combien de milliards de gens qui font la sieste sur cette planète? Et encore, on n'a pas été voir sur les autres planètes. Hein? Parce qu'il me semble bien que les extraterrestres, ils font la sieste aussi, eux. Mais plus longue que nous, ouais. Parce qu'eux, ils ont des journées de 125 heures et ils font la sieste 48 heures. Les extraterrestres, ouais. C'est pour ça que quand ils viennent sur Terre, on est emmerdés. Parce qu'on ne peut pas leur donner à manger, ils dorment pendant 48 heures. Vous voyez? Oh, que c'est chiant! Merde, qui reste chez eux, merde. Allez, la sieste. Elle fait au milieu du jour son petit somme, car l'enfant a besoin du rêve, plus que l'homme. Cette terre est si laide, alors qu'on vient du ciel. L'enfant cherche à revoir Chérubin, Ariel, ses camarades, Punk, Titania, les fées, et ses mains, quand il dort, sont par Dieu réchauffées. Oh, comme nous serions surpris si nous voyons au fond de ce sommeil sacré plein de rayons, ces paradis ouverts dans l'ombre et ces passages d'étoiles qui font signe aux enfants d'être sages. Ces apparitions, ces éblouissements, donc à l'heure où les feux du soleil sont calmants, quand toute la nature écoute et se recueille, vers midi, quand les nids se taisent, quand la feuille la plus tremblante oublie un instant de frémir, Jeanne a cette habitude aimable de dormir. Et la mère, un moment respire et se repose, quand on se lasse d'être à servir une rose. Ses beaux petits pieds nus, dont le pas est peu sûr, dorment, et son berceau qu'entoure un vague azur, ainsi qu'une auréole entoure du cet immortel, semble un nuage fait avec de la dentelle. On croit, en la voyant, dans ce frais berceau-là, voir une lueur rose au fond d'un falbala. On la contemple, on rit, on sent fuir la tristesse, et c'est un as, ayant de plus la petitesse, l'ombre, l'amoureuse d'elle, a l'air de l'adorer. Le vent retient son souffle et n'ose respirer. Soudain, dans l'humble et chaste alcôve maternelle, versant tous les matins qu'elle a dans sa prunelle, elle ouvre la paupière, étend un bras charmant, agite un pied, puis l'autre, et si divinement que des fronts dans l'azur se penchent pour l'entendre, elle gazouille. Alors, de la voix la plus tendre, couvrant des yeux, l'enfant que Dieu fait rayonner, cherchant le plus doux nom qu'elle puisse donner à sa joie, à son ange en fleurs, à sa chimère. Te voilà réveillé ? Horreur ! Dit la mère. Eh oui, elle voulait qu'elle continue de dormir, certainement. Alors j'espère que c'était pas, elle voulait pas qu'elle soit morte. Hein. Ah non, ce serait pas du Victor Hugo sinon ça. Ça serait comme on appelle ça du, vous savez, celui qui habite dans les Carpates là, un démon qui prend le sang des gens. Oh merde, comment on les appelle?
Vampire.
Oui, voilà, un vampire. Voilà. Non, Victor Hugo n'est pas un vampire. Non. Hein? D'abord, il n'y a pas pire que le vent. Oui. Bon. Allez, tiens, on va passer une chanson d'un beau métis cadamé. Mandela Libertad. Ouah, ouah.
est là. Libertà, libertà. Tu vedi che mi bounce your freedom.
Voilà. Bon, bah, vous connaissez tous Mandela. Hein. 25 ans de cellule, vous vous rendez compte, et il devient le président de l'Afrique du Sud. C'est pas beau, ça. Et il a pardonné à tout le monde. Même à ses tortionnaires. Vous vous rendez compte, ce mec, comme il était bien, hein. Eh ouais. Alors, je sais pas si on va voir un mec comme ça, comme Premier ministre dimanche soir, mais j'aimerais bien que ce soit un mec comme ça. Oui, mon manque de peau, il est noir. Eh oui. Alors tiens, j'ai un beau poème, là, pour, de moi en plus, hein, ouais, qui a été écrit le vendredi 24 mai, à 1h10 du matin. Qu'est-ce qu'il fout le Mélier à écrire à 1h10 du matin? Mais il est pas un peu fou, ce mec, hein? Bon, en plus, une histoire complètement dingue. Je vois pas ce que ça peut faire. Le thème, vous allez voir, le thème est complètement dingue. Ça s'appelle le gros colis. Le gros colis. Momo, on a frappé à la porte. Bonjour, monsieur le postier, chargé de gros colis. C'est bien vous, Jules Maurice? Oui. Vous nous amenez un gros colis envoyé par Colissimo? Ah, mais on n'a rien commandé. C'est de la part de madame Colissimone. Vous connaissez? Non, jamais entendu ce nom. Bon, je vous laisse le gros colis. Voyez avec mes supérieurs. Mon chef de bureau s'appelle monsieur Colimaillard. Écoute, Momo, ouvre-le, on verra bien. Merde. Dedans, c'est plein de brocolis. Quoi, répète? J'ai dit des brocolis dans ce gros colis. T'es sourde? Qui a pu nous envoyer du chou? Et en plus, en colis? Mais non, ce ne sont pas des encolis. Et en plus, tu sais que... Je sais que tu n'aimes pas les colis quand ils ne sont pas en recommandé. On les renvoie ou on tente de les manger? Oh, moi, j'aime ça, hein. Mais toi, bah, t'auras qu'à manger des pâtes en colimaçon. Quoi? Tu veux inviter le maçon, notre voisin, le colistier du quartier? Oui, celui qui a souvent le torticolé quand il me mate à poil dans le jardin. Invite plutôt la voisine, celle qui est mélancolique et qui porte des colifichets autour du cou. Mais non, je n'ai pas dit qu'elle avait la colique. Oui, celle qui avait eu une collision devant le Colisée. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris ce que ça voulait dire. On joue qu'avec des jeux de mots qui se ressemblent. Vous voulez que je vous fasse un dessin? Vous avez qu'à acheter le numéro le 251 de juin 2024. C'est la 22e année, ça s'appelle le journal des repas de Périgueux. Et vous ne pourrez jamais le trouver parce qu'il n'est pas en vente. Il est réservé aux hydropathes et aux techniciens de RLP. Ouais. D'ailleurs, à la fin de l'émission, je vais lui donner. Je vais lui offrir, pas donner, offrir. Hein. Parce que donner, c'est pas beau. Offrir, c'est plus beau. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous filer? Je vous refile un petit Victor Hugo. Hein. Je ne sais pas, j'ai remarqué, vous avez l'air d'aimer ça. Et puis, je sais que Jaco, elle aime ça, Jaco. Hein, Jaco? Ah, tu vois, j'en étais sûr. Ouais. T'as bien fait de me le dire, parce que tu vois. Alors, bon, je ne veux pas faire plaisir qu'à Jaco. Je connais plein de gens qui aiment Victor Hugo. Même, il y en a même, ils dorment avec les livres de Victor Hugo dans leur lit. Oui, ouais. Ils ont l'impression de dormir avec lui. Oui. Bon, moi, je n'essaye pas, ça ne m'intéresse pas. Ça après Victorine Hugo, oui, mais pas Victor Hugo. Ah, la prisonnière passe. J'ai jamais vu une prisonnière passer, moi, parce qu'en général, elles sont enfermées. Hein. Bon. La prisonnière passe. Elle est blessée. Et là, on ne sait quel aveu sur le front, la voilà. On l'insulte. Elle a l'air des bêtes à la chaîne. On la voit à travers un nuage de haine. Mais qu'a-t-elle fait ? Chercher dans l'ombre et dans les cris, chercher dans la fumée affreuse de Paris. Personne ne le sait. Le sait-elle elle-même ? Ce qui, pour l'homme, est crime, est pour l'esprit problème, la faim. Quelques conseils ténébreux, un bandit, si monstrueux qu'on l'aime, et qu'on fait ce qu'il dit. C'est assez pour qu'un être obscur se dénature. Ce noir plan incliné qu'on nomme l'aventure, la pente des instants fauves, le fatal vent, du malheur en courroux profond se dépravant. Cette sombre forêt que la guerre civile toujours relève au fond de toute grande ville. Dire, d'autres ont tout. Et moi, qu'est-ce que j'ai ? Songer, être en haillons et n'avoir pas mangé, tout le mal sort de là. Pas de pain sur la table. Il ne faut rien de plus pour être épouvantable. Elle passe au milieu des foules sans pitié. Quand on a triomphé, quand on a châtié. Qu'a-t-on devant les yeux ? La victoire aveugle ? Tout Versailles est en fête. Elle se tait, sanglante. Le passant rit. Les seins des enfants la poursuit de tous les cris que peut jeter l'aube à la nuit. La mer silence écume aux deux coins de sa bouche. Rien ne fait tressaillir sa surdité farouche. Elle a l'air de trouver le soleil en milieu, une sorte d'effroi féroce dans ses yeux. Des femmes, cependant, hors des vertes allées, douces têtes, des fleurs de printemps étoilées, charmantes, laissant pendre aux bras de quelques amants leurs mains exquises et blanches où brille un diamant. À court, oh l'infâme, on la tient, quelle joie! Et du manche sculpté d'une ombrelle de soie, frais et riant bourreau du noir monstre inclément, elle fouille sa plaie avec rage et gaiement. Je plains la misérable, elle, je les réprouve, des chiennes font horreur devant mordre la louve. Alors il met 6 juin, mais il ne met pas la date. C'est quand même bizarre. Hein ? D'habitude, il met la date. Bon, je vais lui dire, je vais lui reprocher de ne pas avoir mis la date quand même. Enfin, ça doit remonter à dans les 1800 et quelques broutilles. Hein. Ouais, par exemple, là, j'en ai un, il est 1871, et l'autre, il est 3 pages après, donc il est peut-être de 72. Si c'est par ordre chronologique, bien sûr. Hein. Bon, voilà, donc c'est dur, hein. C'est dur ce qu'il écrit. Hein. Ah ouais, moi, je trouve que c'est dur. Hein. Mais bon, on ne peut pas lui reprocher. Hein. Il a vécu des choses incroyable, atroce, fantastique, il a tout vécu ce mec, exilé, revenu presque au pouvoir, parce que je ne sais même pas s'il n'était pas... Enfin, il était politisé en tous les cas, à un moment donné, mais il était pour les pauvres. Alors, je ne pense pas qu'il était pour les riches au début, hein. Non, je ne crois pas. Bon, allez, tiens, Bruno Daraki, la Toinon. Alors lui, Bruno Daraki, c'est un spécialiste de Gaston Couté.
Paraît que la Toinon qui est partie comme bonne pour aller sarviche des gens de Paris s'appelle apaisant, mame la baronne. Moi je suis resté bêtement au pays. Ça ne m'a jamais venu dans la caboche être coller un d'eux par devant mon nom. Et pourtant du temps que j'étais tout petit mioche, j'allais à l'école avec la Toinon. C'est tous les jours, elle porte robe de souhait, elle cesse parloter à chaque mot qu'elle dit. Moi je suis resté bête comme un ouet, je porte la même blouse le dimanche et le samedi. Toute la semaine elle mange de la dinde à la broche, moi toute mon année je bouffe que du cochon. Et dire que du temps j'étais tout petit mioche, j'allais à l'école avec la Toinon. mal reçoit chez elle des messieurs de la ville, des gens comme il faut, qui lui font la cour et qui la fournissent de bio billets de mille. Moi je suis un pauvre gars sans le sou, sans amour, al du moins al vie, sans que le monde y reproche. Moi quand que je bracoune, on me fout en prison. Et dire que du temps que j'étais tout petit mioche, j'allais à l'école avec la Touénon. Ça me gêne de la voir riche et de me voir si pauvre. Ça me saigne de songer qu'à l'aime un tas de gars qu'entre avec le sou au fond de son alcôve et qu'on les béco qu'elle me baillera pas. Aussi, je donnerais ben tout ce que j'ai en poche, ma pipe, mon couteau, mes collègues laitons, pour être corps autant, puisque tout petit mioche, j'allais à l'école avec la Touénon.
Alors ça, c'est du Gaston Couté, hein, c'est lui qui a écrit ce... Alors c'est le poète de la Beauce, en fait. Hein. Mais c'est pas tout nouveau non plus, hein, c'était dans les années 1800, presque 1900. Hein. Alors... Là, je vais vous dire le nom d'une personne que j'ai connue, qui est encore vivant d'ailleurs, Julien Blaine. Alors, figurez-vous qu'il est venu plusieurs fois à Ex-Poésie, donc c'est un festival de poésie qui a lieu sur Périgueux, au moment du Printemps des Poètes National. Voilà. Et il habite Marseille. Et alors, il est un peu spécial, vous allez comprendre pourquoi. Il s'appelle Métaphore. Chaque poète sait qu'il est le dernier à parler. Puis, il en survient un autre, qui est encore le dernier à parler. La poésie est éternellement morte. Et chacun qui vient récupère le cadavre, le secoue, le caresse ou le gifle, l'enlace et le pénètre. Alors, celui qui vient le ressuscite. Les autres, tandis qu'il est redevenu pour le poète chair et sang et de os et viscères, peau et poils, continuent à le voir pourrir. Il se décompose, il pue. Cette décomposition, cette puanteur, tant qu'il n'est pas cendre, cendre et poussière et vie. Ainsi, le cadavre, par la pérennité de sa putréfaction, ne se réduit jamais à n'être qu'ongles et cheveux. Esclave de ce qui disparaît, voue à respirer sa puanteur à perpétuité, tandis que je embrasse à pleine langue la chair verte. Oh, que c'est dégueulasse. Oh, que c'est dégueulasse. Oh, c'est pas beau. Oh, moi qui étais malade, qui avait une bronchite, là, d'un seul coup, oh, ça recommence. Merde. J'ai 45 degrés de fièvre. Vous vous rendez compte? Il va falloir que je rentre à la maison. Oh, mais il n'est pas encore l'heure. L'émission n'est pas finie. Merde. Allez, on va quand même essayer de continuer. Encouragez-moi pour que je puisse continuer. Oh là là. Bon, allez, tiens, allez. On va aller écouter du Méliès, hein, un petit peu quand même. Alors, en plus, il me reste que 3 minutes. Le bonheur avec vous. Inventaire à la Prévert par un joyeux fou. Ça fut écrit le 13 décembre 2008 à 15h12. Juste après la sieste. Un saint affront avait droit de citer une mer de vinaigre, une mer d'huile et un saladier pisse-vinaigre. Un poète escaladeur, plus célèbre qu'un autobus, et une braguette de pain trempée dans de l'acier. Un athée qui croit en tout et un croyant mi-figue, mi-raisin qui s'est tellement athée qu'il en a oublié son demi-sel sur le bord du beurrier. Le chameau va bosser le jour hebdomadaire. Un chat dormant en chien de fusil par mimétisme avec un pied à coulisses. Un pot de beurre, l'argent du beurre et un beurre qui n'a pas de peau. Une infirmière de louer dans le Gers, charge comprise. Un poème gravé dans du saindoux en période de canicule. Il faut se dépêcher de le lire là. Hein. Une canicule sans fondement est difficile à admettre. Allons, réfléchissez un peu. Bon. Un crachat sans titre de transport difficile à poinçonner qui ne s'efface pas avec du chantage ou des menaces, mais avec un joli mouchoir parfumé d'amitié. Une serviette de bain en chaleur sur la plage arrière d'un coupé. un rouleau de papier d'Arménie dans des chiottes à la turque, un saxo à grande gueule traînant sa musique derrière lui, une flûte traversant la scène sur la pointe des pieds en sifflant un air contrôlé par Veritas, un accord passé entre les cordes d'une contrebasse et un piano frigide, un prévert surpris d'être dans un inventaire, un Ravet, casseur de rêves malgré le prix du verre à duvet. Des vieux bruits ridés par les ans et une bassine à queue de requin à tournevis. Pourquoi mettre autant d'ingrédients indigestes dans cet inventaire alors qu'un cannibale et une mouche de cécé auraient suffi pour réussir cette sauce de Périgueux, hein? Alors, bon, Ravet, cafard en créole, blatt, désigne un bigot, oui, c'est un Ravet l'église, hein? Et il existe bien un requin marteau, ce qui ferait des océans une formidable boîte à outils, n'est-ce pas? Voilà. Alors ça, ben, vous voyez, c'était en 2008, hein, ça fait déjà un petit bail. Hein. Oh, ça, non, ça fait que 6 ans. Oh, ça fait que 6 ans, oui. Ouais. 6 ans, j'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Je commençais à écrire à 18 ans. Oh, que c'est beau, oh, que c'est beau. Oh là là, j'en viens pas. Bon, je vais être obligé de vous quitter parce que Jaco m'a dit qu'elle ne voulait pas me faire de frites, que c'était moi qui étais obligé de les faire. Alors je vais aller les faire chez elle. Mais je vais lui mettre une fessée, parce que c'est pas normal, ça. Hein. Allez, je vous le raconterai la prochaine fois. Je vous verrai, je vous dirai comment les fesses seront toutes rouges à cause de mes fessées. À cause de... Mais je prendrai pas les poings, je prendrai que la main. Hein. Non, pas de poings. Moi, pas sur Jaco, quand même. Merde. Allez, à bientôt.